La philosophie peut-elle guérir? Serge Margel au micro de Wolfgang Wackernagel.
J'ai fini l'émission hier en citant un texte assez inquiétant de Platon où il était dit, vous vous en souvenez pour ceux qui l'ont écouté, et ceux qui ont l'âme perverse par nature et incorrigible, on les mettra à mort. Alors évidemment, on peut se poser une question assez dramatique, c'est faut-il mettre à mort le malade mental? Et est-ce pour Platon la seule manière de sauver l'équilibre de l'État, l'équilibre de la cité, la perfection de la cité? Pour Platon, les maladies de l'âme représentent toujours un déséquilibre politique. C'est très important. Et d'ailleurs, je crois qu'on pourrait là aussi penser, et on l'a fait, hein, je pense des travaux de Michel Foucault, de lier directement la question de la maladie avec la question politique, et qu'il y a des liens directs entre un ordre politique et un symptôme clinique. Platon ne fait que de poser un horizon de problème hein, entre la maladie, les maladies de l'âme et la constitution du politique. Mais ce que va faire Asclépios pour Platon, c'est justement d'éviter un massacre, en quelque sorte, pour sauver la cité idéale. Le rôle d'Asclépios, c'est un tout petit peu de faire le juge, l'arbitre. Il faut non pas tuer tous les malades, mais il faut les guérir, justement. Hein? Si on ne pouvait pas les guérir, alors la cité n'aurait aucun avenir. Il n'y aurait pas la possibilité de construire une cité parfaite, ou une cité qui fonctionne dans le meilleur des cas. Donc, le rôle d'Asclépios, c'est justement de se donner les moyens de rétablir un certain équilibre de l'âme pour que l'âme puisse elle-même, c'est-à-dire l'individu, la pensée, la conscience, le comportement, etc., vivre comme bon citoyen. Pour Platon, un individu dont l'âme est malade, c'est-à-dire un pervers, un criminel, etc., ne pourra que contribuer à la destruction, à plus ou moins brève échéance, de toute forme de constitution politique. Asclépios va jouer ce rôle à la fois de politique, de juge en quelque sorte, et de médecin. Il aura cette triple fonction qui, en dernière instance, est pour le bien de la cité. Dans le développement, on peut dire maintenant qu'on en est à cette problématique qui attribue aux maladies de l'âme l'injustice. L'âme est malade parce qu'elle est injuste, parce qu'elle n'est pas capable de faire régner la justice, et pour retrouver la justice, il faut la soigner par la morale. En fait, c'est ça que va dire Platon. La morale, en fait, quelque chose, il va inventer cette discipline qu'on connaît aujourd'hui comme discipline. La morale, pour Platon, consistera à guérir les maladies de l'âme. Et la morale, qu'est-ce que c'est? On va pas faire un discours sur la morale, mais enfin, c'est tout le problème du devoir, du respect des lois, du comportement, etc. Donc, les maladies de l'âme vont devoir être guéries par la constitution dans la cité d'une morale, hein, d'une morale du citoyen. Qu'est-ce qu'un bon citoyen, en fait? Le problème continue, parce que comment va-t-on guérir concrètement une âme malade, une âme qui souffre d'injustice, hein? Quels vont être les équivalents psychiques, entre guillemets, hein, qui concernent l'âme, des potions, des liquides, des pilules, des médicaments qu'on attribue au corps pour qu'il soit guéri d'une infection, d'un cancer, d'un ulcère, etc. Donc, évidemment, pour guérir l'âme, on va pas donner des pilules, des médicaments, etc. Hein? De nouveau, on en a parlé hier. Aujourd'hui, on prend des antidépresseurs, on prend des médicaments qui agissent sur le cerveau, mais encore une fois, les maladies dont parle Platon ne sont pas des maladies, entre guillemets, cérébrales, mais des maladies morales, justement. Et aucun médicament matériel, hein, aucune potion, pour Platon, ne pourra suffisamment guérir l'âme, puisque ces maladies n'ont rien à voir avec les troubles somatiques. Donc, quels seront les équivalents pharmaceutiques, si on peut appeler ça comme ça, des médicaments? Et Platon va reprendre quelque chose qui était déjà élaboré par les sophistes, on en parlait aussi hier, surtout le sophiste Gorgia, qui dit, et je cite un passage assez célèbre, « Il existe une identité de rapport entre la force du discours relativement à l'ordonnance de l'âme et l'ordonnance des drogues relativement à la nature des corps. » Hein, c'est un passage de Gorgias, donc il y a contemporain de Socrate. Alors, qu'est-ce qu'il dit, là, Gorgias? Il dit tout simplement que le discours va pouvoir guérir l'âme comme un médicament peut guérir le corps. De même que le médicament va agir là où le corps est blessé, pour chaque blessure, un médicament, pour chaque lésion, un traitement lié à un produit, une potion, etc. De même, pour chaque blessure de l'âme, pour chaque défaut de l'âme, pour chacun de ces troubles, il va falloir trouver le discours approprié. Et ce discours, c'est une conviction. Il faudra que le médecin, le psychiatre, agisse pertinemment par son discours sur la lésion du patient. Et là encore, c'est un dialogue et donc une confiance qui devra être l'objet du traitement.
C'est une très belle idée, Serge Margel, que ce discours comme thérapie, en fait, Platon est le père d'une logothérapie.
Ce qui est important dans cette idée, c'est de bien comprendre que l'âme, décrite comme le déséquilibre de la cité idéale, si l'âme est malade, la cité idéale va périr, pour qu'elle puisse retrouver son équilibre, l'âme, elle devra subir un traitement qui passe par le discours du médecin, en contact avec les symptômes du patient. Hein. Donc le discours va jouer le rôle d'un nouveau médicament, d'un pharmacon. D'ailleurs, Platon lui-même va décrire ce discours de rétablissement comme un pharmacon dans la République, toujours. Mais ce qui est important de souligner là, c'est que ce discours, Platon ne va pas directement et seulement l'appeler un logos, hein, ça c'est le mot grec pour le discours, disons le logique, hein, le logos, mais surtout, il va le décrire en termes de musos, hein, d'un mythe, d'un récit, d'une fable.
Ce logos, c'est au fond un terme qui fait aussi penser au Christ, puisque dans une perspective qui est aussi la perspective médiévale, c'est le Christ qui est le logos. Donc on a une sorte de passage d'un médecin qui est médecin, et ensuite, du moins dans les maladies de l'âme, c'est, si j'ose dire, presque le philosophe qui endosse le rôle du médecin, et après le philosophe, c'est le Christ qui endosse ce rôle.
Tout à fait. Si Platon attribue le pouvoir curatif au discours, un pouvoir curatif au discours, c'est évidemment pour s'attribuer à lui-même le rôle du médecin. Ça, c'est évident. Le philosophe, pour Platon, c'est le médecin de l'âme. Hein, on avait dit au début de la première émission, c'est la vocation philosophique, et d'ailleurs on retrouve ça encore parmi les philosophes plus modernes, plus proches de nous, Leibniz, qui dit « il faut que les médecins philosophassent et il faut que les philosophes médicinassent ». Et c'est encore très proche, il y a toujours ce souci, je ne sais pas si aujourd'hui parmi les médecins c'est encore une question qui se pose, il faudrait d'ailleurs là leur poser cette question, mais ce qui est important en tout cas d'un point de vue philosophique, c'est que Platon s'attribue explicitement le rôle du médecin guérisseur de l'âme. Et ce rôle passe directement par le discours, c'est-à-dire par le logos, même si l'opposition qu'il fait entre le logos et le musos, la raison discursive, la raison et le mythe, la fable, est très difficile et très ambiguë chez Platon, ce qui est sûr, c'est que l'âme va guérir si on lui raconte quelque chose, si on lui dit quelque chose, en fonction de son trouble, de son mal, de cette lésion. Ce qu'il y a, je crois, de directement lié avec le Christ, hein, le Christ médecin, c'est justement ce rôle du discours intérieur. Avant d'élaborer un peu plus cette idée du Christ médecin, comme les chrétiens, les premiers chrétiens l'ont appelé, je veux juste encore un tout petit peu souligner le passage entre ce que Platon dit d'Asclépios et ce que les premiers chrétiens vont dire du Christ comme nouvel Asclépios, hein, c'est comme ça aussi qu'ils vont le nommer, c'est que pour Platon, le discours par lequel on peut guérir l'âme restait encore un discours, disons, extérieur, hein, un discours qu'un médecin peut prononcer à l'endroit du patient. Tandis que le christianisme, ce qu'il va faire, c'est intérioriser ce discours. C'est le discours que l'âme se tient à elle-même, en quelque sorte. C'est un discours intérieur, c'est un discours qui m'habite. C'est ce que mon âme peut se dire à elle-même, d'elle-même. Le Christ, en quelque sorte, pour pouvoir s'attribuer cette fonction du nouvel Asclépios, va devoir, et c'est le sens même de l'incarnation, va devoir s'incarner dans le corps de l'homme pour s'identifier, hein, pour s'approprier ce discours intérieur qui à la fois est la cause et l'origine des blessures de l'âme, hein, c'est les mauvais désirs, c'est les mauvaises intentions, c'est les mauvais penchants, et en même temps guérir l'âme. Hein, c'est le double jeu du discours intérieur qui est à la fois la source du malheur et la possibilité d'une guérison du malheur. Hein. Et le Christ médecin, c'est, en quelque sorte, cette double figure interne à l'âme qui blesse et qui guérit. Alors, il y a un très beau texte d'Isaïe, du prophète Isaïe, une prophétie de la venue du Christ, qui dit, je cite, « Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » On pourrait croire que c'est un texte du Nouveau Testament, alors qu'en fait c'est un texte qui n'a strictement rien à voir avec le Nouveau Testament, donc avec le christianisme.
C'est un très intéressant emboîtement qui montre combien quand même à l'époque il y avait, si je veux dire, un métissage culturel, que tout le monde pensait un peu des aspects différents qui ont refondu cette idée du christianisme. On a l'idée, si j'ose dire, d'une philothérapie, là au fond avec Isaïe, c'est une bibliothérapie, une thérapie par la Bible, qui va aboutir, qui va trouver son aboutissement dans le Christ qui s'incarne, l'incarnation du Christ dans ce monde et l'incarnation du Christ dans les chrétiens.
Évidemment, et pour les chrétiens, l'incarnation du Christ ne concerne pas que ceux qui sont censés y croire, ceux qui ont la foi, mais il s'est incarné dans l'homme. Hein, pour suivre le raisonnement, le mythe et la conviction des premiers chrétiens et de tous ceux qui l'ont suivi, l'incarnation du Christ est une incarnation qui concerne l'humanité dans sa totalité et pas dans certains élus. C'est très important ça. Hein. Le Christ s'est incarné dans l'homme et s'il s'est incarné dans l'homme, c'est pour le sauver. Alors, évidemment, le Christ est sauveur et il le sauve de ses maladies. Et de quelles maladies? Non pas de son ulcère et de ses cirrhoses du foie. Il le sauve de ses maladies de l'âme, c'est-à-dire du péché, des fautes qu'il a commis, du fait que c'est un homme qui a quitté le paradis, etc. Et le Christ, par son incarnation, va justement travailler de l'intérieur à purger, sauver et libérer l'âme des entraves qui le condamnent à la mort. On peut dire que le Christ médecin, c'est en fait l'Asclépios qui s'est converti au christianisme. On pourrait dire ça comme ça aussi. Mais maintenant, ce qui est très important avec le Christ médecin, et on l'a déjà vu autour de Platon, c'est que ce médecin va travailler pour rien. Il va travailler gratuitement. Hein. Le Christ médecin est un médecin qui travaille gratuitement, mais de manière indiscutable. Et il y a un rapport direct entre la gratuité des services thérapeutiques qu'offre le Christ et la grâce divine. Hein, c'est très, d'ailleurs, le mot, c'est le même, hein, la grâce et la gratuité, c'est le même mot. Et je crois que pour les chrétiens, revendiquer la gratuité du Christ médecin, c'est la même chose que de parler de la grâce divine. Vraiment, c'est la même chose. Et il y a un tout petit texte, un passage très court des suppliques d'Athanagore, qui est un père de l'Église, un peu moins connu que saint Augustin et d'autres, qui dit « Toi, le seul gardien de tes serviteurs et le seul médecin qui guérit gratuitement, le seul bienfaiteur et le seul sans orgueil, le seul miséricordieux et le seul généreux, le seul sauveur et le seul juste. » Donc, tous les attributs qu'on donne au Christ, sauveur, miséricordieux, etc., sont liés, comme on le voit dans le texte d'Athénagore, à cette fonction, le seul médecin qui guérit gratuitement. Parmi tous les médecins, il est, lui, le Christ, le seul qui ne demande pas de l'argent pour son service, qu'il est miséricordieux, généreux, sauveur et juste.
Ce texte d'Athénagore qui insiste sur la gratuité montre à la fois, disons, comment il tient à mettre en avant cette différence qualitative entre le Christ et Socrate, donc le platonisme, et en même temps on voit combien il est placé dans cet esprit platonicien, puisque c'est déjà Platon, Socrate qui souligne le fait que Asclépios, dans son vrai rôle de Dieu, est aussi un médecin qui guérit gratuitement. Il y a ce problème de la vénalité qui est à l'intérieur du débat philosophique de Platon, contre surtout les sophistes, qui sont des médecins qui guérissent l'âme, mais contre de l'argent, et lui qui revendique cela. Et il y a une sorte de surenchère dans le christianisme, ou peut-être aussi d'accomplissement, qui fait ce passage, en fait, du platonisme dans le christianisme.
Il y a un lien direct entre la figure d'Asclépios chez Platon et la figure d'Asclépios dans le christianisme, à cette seule et unique différence qui pour moi est de taille, c'est que l'Asclépios chrétien est, disons, un Asclépios intérieur. C'est quelque chose qu'on porte tous en nous pour le christianisme. Tandis que chez Platon, c'est le rôle politique du philosophe. Dans la cité, le philosophe, en tant qu'individu et citoyen, a pour fonction de maintenir ce pouvoir d'Asclépios, qui est l'ordre de la cité idéale, en rétablissant la justice, en menant la justice à bon terme. Tandis que, dans le christianisme, le rôle d'Asclépios, c'est un rôle purement interne à l'âme, hein, au corps et à l'âme. C'est une dimension qui habite chaque individu, puisque le Christ s'est incarné dans l'humanité. Pour l'humanité, il faut que chacun trouve en lui ce petit Asclépios qui nous habite et qui tend à nous sauver l'âme en nous donnant la foi, la croyance, en nous réparant. C'est une espèce d'homéopathie. En fait, l'Asclépios chrétien, c'est un discours homéopathique, contrairement à l'Asclépios platonicien, qui est en fait un discours politique.
Ce qui me frappe, c'est ces ressemblances et différences. Asclépios visite aussi les patients, et est-ce qu'on le fait gratuitement ou pas? En tout cas, ça, on peut se le demander. Dans le culte d'Asclépios à Épidaure, mais aussi à Rome, j'ai même vu ce temple d'Asclépios à Rome, il faut quand même le mentionner, il y a un temple qui se trouve aux îles Tibérines. Le dieu Asclépios, c'est dans les métamorphoses d'Ovide, hein. Il s'est transformé en serpent, et il a été emmené par les Romains, et ils sont montés le fleuve, le Tibre, qui est aussi un dieu, et ils se sont installés sur cette île, et ce qui est fascinant, c'est que sur cette île, depuis que Asclépios y est arrivé, il y a ce rôle. Encore aujourd'hui, on trouve les plus anciens hôpitaux de Rome qui sont sur cette île, et il y avait encore un portrait d'Asclépios que notamment Piranèse a montré. Donc il y a à la fois cet aspect qui est déjà présent chez Asclépios et qui est accompli. C'est pour ça que je questionne un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le christianisme, le fait de réitérer ça. Finalement, ensuite, c'est les prêtres d'Asclépios qui donnent de l'argent, et le problème, la querelle d'ailleurs luthérienne, des indulgences, parce que tout à coup plus tard, dans le contexte de l'Église, c'est plus gratuit, c'est tout à coup payant. Il faut payer pour avoir le pardon des péchés. Excusez-moi de vous interroger un peu sur cette ambiguïté qu'on perçoit et dans le platonisme, mais il faut le dire aussi un peu dans le christianisme.
Alors évidemment qu'il y a des liens directs, encore une fois, dans l'activité du Christ guérisseur qui va voir les paralytiques, les malades, etc., dans la rue, et qui va les guérir immédiatement, pour rien. Et puis, cette figure d'Asclépios qu'on pouvait représenter lui aussi, comme allant guérir les malades. Mais simplement, je crois qu'il y a en plus une figure qui se veut, là encore, comme je disais au début de l'émission dernière, une sorte de métaphore. Chez Platon, c'est une métaphore Asclépios. Le philosophe est un Asclépios, mais d'un point de vue métaphorique. C'est-à-dire, il doit faire comme Asclépios, qui guérit en réalité les malades dans la rue. Il doit avoir cette vertu de guérison, le philosophe. C'est une vertu qu'il doit s'attribuer. Mais encore une fois, il doit se l'attribuer en tant qu'il est un homme politique. Tandis que, j'insiste beaucoup, pour le christianisme, il ne s'agit absolument pas d'ordre social, il s'agit vraiment d'une constitution de l'âme. C'est l'âme elle-même qui porte en elle cette dimension d'auto-guérison, en quelque sorte. De même que c'est l'âme elle-même qui a commis des fautes, qui a mal agi, qui a péché, qui a mangé la pomme, qui a désiré, etc. De même, c'est l'âme qui doit un jour trouver son mode de guérison. Et ça, le Christ révèle. En fait, le Christ ne fait, pour le christianisme, ne fait que révéler cette dimension interne de l'âme. C'est ce pouvoir qu'a l'âme d'agir sur elle-même. Alors, tout ce qui vient d'être dit de manière un peu générale pourrait, sans trop de difficulté, se concrétiser, s'expliciter avec des textes. Et ceux qui, parmi les chrétiens, ont parlé avec le plus de précision et le plus d'ardeur du Christ médecin, le nouvel Asclépios, c'est entre autres Origène et saint Augustin. Alors Origène est un père de l'Église qui a beaucoup écrit sur l'Ancien Testament. Et je pense surtout à deux homélies, une sur Ézéchiel et une autre sur le Lévitique. Dans l'homélie sur Ézéchiel, il va surtout parler, Origène, du cancer de l'esprit. C'est un texte, je cite, c'est un texte assez troublant, pas très long, où le cancer de l'esprit est attribué au péché. Alors je cite, « Car à ceux qu'infecte un cancer invétéré, ils appliquent soit la lame chauffée à blanc d'un couteau, soit une sorte de fer très pointu, pour enlever par le feu les racines du cancer, et par l'incision, amputer la chair gangrénée et ouvrir la voie à l'application des remèdes. Qui d'entre nous, penses-tu, a un péché semblable, pour ainsi dire à un cancer ? Pour que ne lui suffise pas ou le simple tranchant du fer ou la simple brûlure du feu, mais qu'on applique l'un et l'autre afin qu'il soit brûlé et coupé. » Alors là, on voit que le cancer de l'esprit ne pourra être soigné non pas par des lames, des rasoirs et des médicaments, mais bien d'une toute autre manière. Et cette autre manière, évidemment, c'est l'incarnation du Christ, le Verbe intérieur qui va soigner de l'intérieur. Et là, il y a un autre texte, l'homélie sur les Lévitiques, où il est dit, je cite, « Or vient auprès de Jésus le médecin céleste, entre dans cet institut médical qu'est son église, regarde étendue là une foule de malades. Et parce que Jésus, qui est ce médecin, est en personne aussi le Verbe de Dieu, il rassemble pour ces malades des remèdes tirés. » Et c'est là qu'il y a la distinction entre les types de remèdes, non pas des sucs d'herbe, mais des sens mystérieux de ses paroles. Hein? Et là, les sens mystérieux des paroles ont un pouvoir curatif. Mais pour peu qu'on ait appris que la médecine des âmes est auprès du Christ, on comprendra sûrement que chacun doit tirer de ses livres lus à l'Église, comme de la plaine ou de la montagne, des herbes salutaires, à savoir le sens des paroles. Cela pour que, s'il est dans l'âme une langueur, elle soit guérie par la vertu puisée, moins dans le feuillage extérieur et l'écorce que dans le suc intérieur. Fin de la citation. Alors ce texte est assez beau, contrairement au premier qui est assez troublant, mais là encore ce texte décrit très bien, je crois, l'équivalence thérapeutique entre ce qu'il appelle un suc extérieur, qui est en fait une potion, et un suc intérieur, qui est un verbe incarné. Il y a cet autre penseur de l'Église plus connu qui est saint Augustin, qui lui aussi aura beaucoup écrit sur le Christ médecin, et en particulier dans le Tractatus Ioannis, c'est-à-dire les homélies sur l'évangile de Jean, où la figure du médecin revient, puisqu'il s'agit dans l'évangile de Jean, surtout à partir du prologue, du problème de l'incarnation. Dans le prologue de Jean, il y a le verbe s'est fait chair. Et saint Augustin va revenir sur cette idée, mais il va apporter quelque chose, à mon sens, de très important. C'est que non seulement le Christ médecin va, comme chez Origène et dans toute la tradition, va guérir les maladies de l'âme, donc va sauver l'âme du péché qui ronge l'âme, mais surtout, le Christ médecin va guérir l'âme de la mort. Il va même aller jusqu'à dire, en reprenant des textes de l'Apocalypse de Jean, que le Christ médecin va faire mourir la mort. Hein? C'est la mort qui est mise à mort. Le Christ médecin a cette vertu finale, non seulement de guérir les maladies, c'est-à-dire de sauver le corps de la mort, mais de faire mourir la mort. Ce qui est absolument incroyable, ce qui est difficile à penser. Qu'est-ce qu'une mort qui fait mourir la mort ? Il a guéri des blessures sur cette croix où il a longuement enduré les siennes. Il t'a guéri de ta mort éternelle, sur cette croix où il a daigné mourir d'une mort temporelle. Mais est-il mort, ou bien n'est-ce pas plutôt la mort qui est morte en lui ? Quelle mort que cette mort qui met la mort à mort ? Fin de la citation. Alors là, le premier sentiment qu'on a après une lecture, c'est un certain trouble. Qu'est-ce qu'une mort qui fait mourir la mort ? Et justement, Augustin se demande, il pose la question, lorsqu'il est mort sur la croix, le Christ, pour nos péchés, pour nos blessures, etc. Est-ce qu'il est vraiment mort, lui ? Alors il se demande si finalement, au lieu de penser que le Christ est mort sur la croix, est-ce que sur cette croix, le Christ que l'on voit n'est pas simplement la mort de la mort? C'est ça qu'il se demande. Hein. Est-ce que le Christ médecin, en mourant sur la croix, n'a pas finalement mis notre mort à mort? Et en ce sens, est-ce qu'il n'a pas accompli le rêve, peut-être, l'idéal du mythe d'Asclépios, sauveur de toutes choses?
Au micro de Wolfgang Wackernagel, c'était Serge Margel. Demain, ce sera l'inverse, puisque Serge Margel recevra Wolfgang Wackernagel. Domaine Parler était réalisé par Jean-Paul Rossi, assistant de production.